Bonjour tout le monde, ici Marjorie Théodore au micro pour une autre émission de Vivement les femmes. Merci à vous de nous suivre sur les ondes de Canal M. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui malheureusement est toujours d'actualité. Il s'agit de féminicide. Mon invitée Geneviève Rioux a survécu à un féminicide. Dans son appartement, au cœur de la nuit, elle a été laissée pour morte, marquée de 18 coups de couteau. Pour toutes celles qui ont été emportées par la violence, pour leurs proches aussi, ces nombreuses victimes collatérales, elle prend la parole qui devient réparation, la parole qui se fait fil pour se recoudre individuellement et collectivement. Bonjour Geneviève Rioux.
Enchantée Marjorie.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vraiment un plaisir de t'avoir avec moi.
C'est un réel plaisir
moi.
Pour moi.
Pareil. Alors Geneviève, tu es doctorante en psychologie et autrice. Mm-hmm. Ton histoire est terrible. T'en as fait vraiment comme une plante vivace, capable de nourrir d'autres victimes. Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire?
Oui, bien, je vais commencer par les événements qui se sont produits et que tu as un petit peu abordé là, en introduction.
Oui.
J'ai été victime d'une tentative de meurtre dans mon domicile, mais c'est aussi couplé à une tentative d'agression sexuelle dans la nuit du 8 avril 2018. Mm-hmm. Et donc, j'ai été étranglée, presque assassinée. On m'a donné 18 coups de couteau, principalement dans le haut du corps, dans le visage, à la tête. Mm-hmm. Et ce qui a fait en sorte que j'ai dû combattre pour ma vie. Et en même temps, pour moi, c'est un miracle là, que je sois là. Mm-hmm. Ma vie, vous l'avez dit, tenait qu'à un fil. Là, puis effectivement, c'est le cas là, au sens littéral du terme. Je ne tenais qu'à un fil à un certain moment. Ce qui fait aussi en sorte que cette vie-là, ben, j'ai voulu en faire quelque chose de plus. Je n'ai pas survécu pour rien, pour mm-hmm. moi. Mm-hmm. Donc, c'était important de pouvoir raconter ce que j'avais vécu. C'était important de pouvoir donner un sens à ça puis de se réparer, effectivement. En essayant de trouver quelque chose qui se rapproche d'un sentiment de justice, surtout quand les moyens, le système notamment, n'est pas là pour aider les victimes là, à se réparer.
Oui, oui. Il y a quelque chose de quand même d'incompréhensible dans cette histoire parce que plusieurs années avant, ta mère a été également victime.
Effectivement, donc à peu près 20 ans plus tôt, en 1999, il y a un individu qui s'est introduit dans notre maison familiale et qui a tenté d'agresser ma mère. Il y a eu un combat qui a mené, disons, à la liberté de ma mère, au sens où elle s'est libérée de l'agresseur. Puis elle nous a interpellés, ma sœur et moi, qui dormaient au sol. Mm-hmm. On est montés, on a appelé à l'aide, on a pris le téléphone, composé le 911 et contacté mon père également. Mm-hmm. Ce qui fait que non seulement le type d'agression est assez similaire, la violence physique n'est pas la même parce que l'agresseur de ma mère n'était pas armé d'un couteau.
Okay.
Par contre, l'intention était similaire au moment où ma mère se retrouvait dans le lieu le plus intime mm-hmm. d'une existence, qui est la chambre à coucher. Et même ma réaction mm-hmm. est similaire à celle qu'on a eue, ma mère et moi et ma sœur, au moment des événements qui sont survenus en 1999.
Oui.
Ce qui fait que c'est vraiment particulier ça aussi. Comme s'il y avait une forme de conditionnement inconsciente mm-hmm. à combattre. Mm-hmm. Donc, un sens que j'ai attribué à mon expérience, c'est de dire que la première agression m'a permis de me sauver de la mienne.
Oui.
Il fallait combattre, là, il fallait se défaire de l'agresseur.
Oui. Puis on parle, dans ça, j'entends aussi, on parle de peut-être l'énergie du désespoir qui t'a sauvée. Puis de te permettre d'atteindre le téléphone et tout ça, à bout de ça. Est-ce que ce serait ça? C'est quoi la force? À quoi tu attribues la force que tu as eue pour faire des actions quand même lourdes avec les blessures que tu as eues?
Il y a une phrase qui dit « on est seul et on meurt seul mm-hmm. ». Et je pouvais pas être plus seule au monde à ce moment-là où je baignais dans mon sang, dans mon appartement. Donc, mon désir de vivre m'a sauvée parce que forcément, si j'habitais seule, personne n'allait venir me sauver à ce moment-là, sinon ma propre volonté. Mm-hmm. Donc, j'ai retraversé mon logement, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé les secours à ce moment-là. Et quand j'ai vu la portée de tout ça, quand j'ai compris que l'enquête qui allait être de longue haleine ne mènerait pas à des accusations, ben je me suis dit que ce que j'étais en train d'écrire, qui était un exutoire pour moi, était peut-être la voie royale là, vers la justice.
Et qu'est-ce qui... lorsque tu prends sur toi, là, j'en doute pas, cette respiration qui doit être difficile, tes idées actuelles, pendant ce moment, quelles sont-elles?
L'absurdité de la mort, de cette mort-là en particulier. Je me suis réveillée dans les escaliers. En fait, je me suis réveillée à 1 mètre du reste du monde. J'étais à 1 mètre de la porte qui me séparait des autres existences humaines qui auraient pu me sauver si on avait été témoin de ça. Ce qui est assez ironique en soi. Et c'était tellement surréaliste pour moi que j'avais l'impression de me réveiller d'un cauchemar. Et rapidement, j'ai compris que ça n'était pas un, que c'était la réalité, que mon souffle était haletant, puis que, bon, le sang autour de moi témoignait vraiment de ce qui venait de se passer. Donc, j'ai remonté les escaliers à tâtons, le souffle très saccadé. Je suis retombée en haut, j'ai retraversé péniblement mon logement. Donc, c'est vraiment ces pensées-là de l'absurdité de la vie qui m'ont habité. Je me souviens que juste avant de perdre connaissance, au moment où l'agresseur s'imaginait que j'étais décédée, je me suis dit, c'est pas juste. Et pour moi, c'était pas juste qu'on puisse pas se défendre à armes égales. Je pourrais pas être plus vulnérable que nue dans mon lit en pleine nuit, en plein sommeil, comme si un alcôve était venu me troubler, là.
Ouais. Donc, l'agresseur a laissé tomber parce que pour lui, tu étais morte.
Oui. Je venais de recevoir beaucoup de coups de couteau, j'avais été étranglée à 2 reprises. Au moment même où je me suis réveillée, que j'ai retraversé mon logement, que j'ai réussi à contacter les services policiers, j'avais plus de pouls radial. Donc j'avais plus de pouls dans mon poignet droit. Ce qui signifie que j'étais littéralement en train de mourir, là.
Je suis avec Geneviève Rioux, doctorante en psychologie et autrice. Geneviève, tu es devant moi, tu es solide, tu es radieuse, belle, éloquente. Comment tu t'es reconstruite après tout ça? Parce que je pense que les victimes ont besoin d'entendre que c'est possible, cette reconstruction.
Mais il y a plusieurs choses. D'abord, quand je suis arrivée à l'hôpital, j'étais pas nécessairement immédiatement dans la peur ou dans le trauma. Pour moi, ça a pris un certain temps avant qu'il y ait des choses qui émergent. J'étais surtout dans le sentiment de victoire de cette vie-là qui a failli me quitter. C'est un peu comme une guerre. T'sais. Après chaque guerre, par exemple, il y a une armistice, il y a une fête. On célèbre la vie, la victoire. Donc pour moi, c'était ça, un sentiment victorieux immense d'être miraculé de cette mort-là. Et au départ, c'était un petit peu difficile à comprendre pour mon entourage, mais ce qui est important à ce moment-là pour moi, c'était de m'éloigner le plus possible de cette mort-là, puis de goûter au contraire à la vie. Donc j'étais dans cette forme de combativité-là, même une espèce de toute-puissance qui était un petit peu, je dirais, détachée de la réalité. En même temps, c'est pas nécessairement mauvais. Je pense que ce qui devient mauvais, c'est quand ça se cristallise sur le long terme. Parce que c'est pas vrai qu'un individu peut faire face et absorber un événement comme ça du premier coup. Fait que les mécanismes de défense qui se mettent en place, ils peuvent être bénéfiques.
Oui, tout à fait.
Ils ont une raison d'être. Donc, j'étais effectivement dans cette toute-puissance-là, même de façon parfois inadéquate. T'sais, je rêvais, moi, presque de retourner dans le même logement. Je disais ça.
OK.
Puis ma mère me mitraillait des yeux, il n'y en était pas question. Puis ma logique, en fait, à ce moment-là, c'était que quand tu tombes à vélo, ben il faut vite se remettre en selle.
Oui, je comprends.
Et j'ai compris rapidement, là, avec l'aide des enquêteurs, que ça se pouvait pas, que ça se passe comme ça. Donc, après avoir été dans toute cette toute puissance-là, en fait, il y avait aussi une forme d'humour qui habitait mon cheminement. Même, c'est ça, déjà à l'hôpital, c'était présent. Et pour moi, c'est important parce qu'un drame comme ça, si c'est juste vécu dans la douleur, ben c'est trop difficile de s'en remettre. Je me souviens qu'au moment où j'étais dans l'ambulance, le policier qui était là pour recueillir mon témoignage disait « OK, Geneviève, reste avec nous. On est quelle date? On est quel jour?
Mm-hmm. »
Puis je lui ai répondu « Je le sais pas, là, mais tu t'appelles Jasmin puis t'es venue à mon bal. » Je me souviens qu'elle avait accompagné une de mes collègues.
OK.
J'avais été totalement déconcertée. Je suis désolée, Geneviève, je t'avais pas reconnue. Puis là, j'ai dit « Je peux comprendre, okay. dans d'autres circonstances, peut-être. »
Oui, oui, oui.
Puis là, bon, on arrive à l'hôpital, puis on avertit ma mère. Ma mère fait la route assez rapidement, nous rejoint.
Mm-hmm.
Jasmin est toujours là, pas très loin, pour prendre ma déposition. Il revient à certains moments, vérifier des détails, il repart. Donc, ma mère a l'opportunité de le voir, Jasmin. Mm-hmm. Puis elle finit par me dire en cachette, quand Jasmin va rire de bord, « Geneviève, il est pas mal kio, lui. » Voyons, ma, c'est-tu pas le temps de penser à ça?
Ouais.
Mais tu sais, c'est rétrospectivement, quand on pense à ça... En fait, ce que je veux dire, c'est que toute situation est complexe.
Oui.
Puis il y a de la lumière, même dans les plus grandes noirceurs. Puis ça, il faut savoir le voir.
Mm-hmm.
Boris Cyrulnik a des belles paroles aussi, en ce sens-là.
Oui.
Et ça, ça marque vraiment mon parcours. Mm-hmm. C'est important. Autre chose qui a été frappante, tu sais, tout à l'heure, tu m'as demandé, Marjorie, comment t'as fait pour te sortir de ça? Ça a été quoi tes premières pensées quand tu t'es réveillée?
Ben,
littéralement, ce qui m'est venu, c'est que j'avais envie de chier, moi, sur mon palier. Tu sais, j'étais en train de me vider, mon corps était en train de mourir.
Mm-hmm.
Mais la dignité, c'est tellement fort qu'avant même d'aller chercher mon téléphone, ben, j'ai pris le temps d'aller chier.
Ouais.
La dignité, c'est fort à ce point-là.
C'est incroyable d'avoir cette force de le faire.
Cette force-là cette espèce de folie-là, je sais pas trop, mais c'est fort comme ça, la dignité. Et à l'hôpital, il y a eu un moment où une amie me regardait. Moi, j'avais le regard un peu divagant. J'avais pris des Dilaudid, donc je n'étais pas tout à fait disponible. Puis elle se demandait qu'est-ce qui pouvait bien se passer dans ma tête dans ce moment-là.
Mm-hmm.
Ça devait être horrible pour elle, tu sais. Et finalement, ce que j'ai dit, c'est « Catherine, j'ai fait un caca de justice. C'est mon caca qui m'a réveillée puis qui m'a sauvé la vie. » Puis elle s'attendait pas à ça comme réponse. Fait que elle a été complètement déstabilisée, puis elle avait deux cafés dans les mains, puis elle les a brandis, puis vive ton caca de justice. Puis tu sais, c'est...
Tout à fait. Donc l'humour a fait partie de cette... Comme, ben presque ce retour à la vie.
C'est ça.
Ouais.
Fait que moi, j'ai pour mon dire que ben des fois, quand on est dans la marne, faut se rappeler que ça peut nous sortir du trou.
Oui. Tout à fait, Geneviève. Ouais. Parle-nous, parce qu'on a parlé de la peur. Ce que je voulais savoir, comment, parce qu'il y a eu cette période que tu dis, humour, et puis entre aussi les médicaments et tout ça, mais la peur de cette jeune femme qui, à l'âge de 7 ans, avait vécu l'agression de sa mère, une agression violente, et qui subit elle-même 20 ans plus tard une autre agression violente. Mais cette peur, est-ce qu'elle a été palpable? Est-ce que tu as pu mettre un mot dessus?
Oui, tout à fait. Mais en fait, elle était présente avant mon agression.
OK.
On parle de ma force, puis il y a des victimes qui m'ont témoigné comment tu fais pour te relever aussi rapidement. Mais moi, j'ai pas commencé à travailler l'agression au lendemain des événements d'avril 2018.
Ouais.
Moi, je travaillais ça depuis 20 ans, en réalité. Depuis l'agression de ma mère.
Oui. OK, oui, je comprends.
Par exemple, quand j'étais jeune adulte et que j'ai déménagé à Sherbrooke pour les études,
mm-hmm.
je me suis mise à faire beaucoup de cauchemars dans ce contexte-là.
OK.
Des cauchemars d'agression.
Mm-hmm.
Il y avait, et de façon tout à fait légitime dans ma famille, une grande peur entretenue, je dirais comme une culture de la peur qui était là. Il ne fallait pas habiter seul, il fallait se promener avec des clés entre les jointures s'il était tard le soir et qu'on était seul dans la rue. Donc, il y avait beaucoup de comportements que je pouvais adopter avant même que moi-même je sois agressée, qui témoignaient de cette peur-là familiale. Et je disais que je faisais des cauchemars quand j'ai déménagé dans mon premier appartement. Ces cauchemars-là, ils mettaient en scène des victimes qui se faisaient agresser. Moi, j'étais comme un personnage omniscient qui voyait la scène de haut puis qui était incapable d'avertir la victime de ce qui allait se passer dans une profonde impuissance. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé, peut-être vers 20 ans, à consulter. C'était en 2012. Ma première psychologue, qui est encore ma psychologue actuelle, qui m'a suivie là, à travers tout ça.
Mm-hmm.
Et dans le traitement de ces peurs-là, ce qui était ressorti, entre autres, quelqu'un un jour m'avait dit, tu sais, Geneviève, tu peux pas avoir peur 365 jours par année quand il s'est rien passé depuis tant d'années. C'est vrai à quelque part. On peut pas entretenir toujours la peur comme ça. Et bon, j'ai fait ce travail-là avec ma psychologue au point où je suis arrivée même dans des moments où je rêvais à retourner dans le rêve puis à modifier le scénario du rêve.
Ah oui,
ouais,
OK.
Tout à fait. Et que j'avais vraiment fait ce travail-là, moi, dans ma vie. Et au moment où mon agression est survenue, je me suis dit, c'est pas vrai qu'un individu va venir bousiller tout le travail que j'ai fait, me ramener à la case départ et me faire croire que le monde est juste mauvais. Donc, ça a été vraiment incarner ça. C'était important de garder ça, ce que j'avais fait comme cheminement déjà. Mais évidemment que j'ai eu peur après. Moi, le plancher qui grince, qui a été la manière dont j'ai constaté qu'il y avait quelqu'un chez nous, ben, c'est un signe de mort imminente. Donc, pendant des années, surtout les premières années, aussitôt que j'entendais un plancher craquer, ben, j'étais en panique.
J'en doute pas,
Fait que j'ai travaillé cette peur-là. Je me suis acheté un chat, notamment, pour attribuer le bruit à autre chose.
Au chat,
un système d'alarme aussi à la maison. Donc, s'il y a du bruit dans la nuit, ben, c'est impossible que quelqu'un soit entré. Il y a un système d'alarme en fonction. J'ai vérifié dans les garde-robes, tout ça. Donc, au départ, j'allumais toutes les lumières de mon appartement quand j'étais seule la nuit. Puis, je m'endormais dans le salon. Au fur et à mesure, j'ai transféré dans la chambre. Ensuite, je me suis mise à fermer des lumières dans les pièces où j'étais pas. Donc, il y a eu ce travail-là qui a été fait jusqu'à ce que maintenant, ben, je sois capable, entre autres, d'habiter seule. Et à un certain moment, de me rendre compte un matin que j'oublie mes clés dans ma serrure de porte.
T'sais. Oui.
Un bel acte manqué.
Ah,
je me suis donné une bonne tape dans le dos cette fois-là. Pas trop souvent, mais pour cette fois-là, c'était correct. C'était un bon indice que je suis en sécurité.
Oui. Tu es psychologue, doctorante en psychologie. Est-ce que pour toi, on doit apprendre à vivre avec ses peurs, avec toute l'expérience que tu as
fait
en tant que psychologue?
Bien, c'est sûr qu'ici, aujourd'hui, je parle en mon nom personnel. Je parle pas comme un titre professionnel.
Tout à fait. Oui, je comprends bien.
Mais puis de toute façon, pour être psychologue, je suis mon propre outil, donc.
C'est ça.
Mon cheminement personnel est hautement important. Et je pense que des processus comme ça, c'est des processus d'une vie. C'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des aléas à tout ça. Il y a des moments de rechute, si on peut dire, vers des moments plus cristallisés dans la peur quand il y a des indices dans l'environnement qui rappellent des choses plus traumatiques. Donc, effectivement, puis juste de penser à ce que ma mère a pu vivre à travers tout ça, imaginer tout ce que ça a réveillé 20 ans plus tard quand sa fille a été agressée. C'est hallucinant, tu sais. Donc, et même ma sœur, tu sais, on parlait de victimes collatérales tout à l'heure, puis on y reviendra si vous voulez, parce que je trouve que c'est un sujet franchement important, puis on n'en parle pas assez. Mais ma sœur a vécu ça deux fois dans sa vie, en étant une fois impliquée, mais en n'étant pas la victime visée. Mais pour moi, elle est une victime importante. Au fond, ma sœur, elle survit à être la seule femme de notre famille à ne pas avoir été victime d'une tentative de viol. C'est outrant.
En conversation avec Geneviève Rioux, doctorante en psychologie et autrice. Geneviève, tu nous as parlé de ta sœur comme victime collatérale. J'aimerais maintenant que tu nous parles de ton père, qui, lui, a vu quand même deux femmes de sa vie victimes d'agression. Comment qu'il a réagi?
Mon père est un homme de peu de mots. C'est un militaire de carrière, donc là aussi une ironie assez profonde. Entre sa fonction de protection et ce qui, je peux imaginer, n'a pas réussi à faire, même si ça lui revenait pas de nous protéger d'une certaine façon, mais je peux imaginer que ça fait partie du sentiment de culpabilité ou du sentiment d'impuissance qui habite les proches. Ça fait même partie de mon recueil, tu sais, de leur adresser cette place-là. Il y a un poème pour lui qui parle directement de sa bonté comme homme. au-delà de ce que je pourrais imaginer en étant dans sa peau, en étant justement dans la mienne, je mm-hmm. peux dire que mon père est un de ces hommes auxquels je veux me référer pour parler de réparation, pour parler d'une humanité profonde qui est nécessaire, parce que c'est pas tous les hommes là, qui sont des agresseurs, puis on a besoin d'être en contact avec ces hommes-là qui sont bons
oui.
Pour rester en confiance mm-hmm. vis-à-vis le genre masculin. Donc mon père, je peux pas imaginer l'ampleur de son trouble, mais je peux comprendre toute la méfiance qu'il a essayé d'instaurer vis-à-vis de nous. Et de façon positive, je veux dire par là, par exemple, de m'avoir incité à faire des cours d'autodéfense
oui.
Suite à l'agression de ma mère. Mm-hmm. Et ça aussi, évidemment, forcément, a fait partie de ma capacité à me défendre au moment de ma propre agression. Ces comportements-là de peur qu'on m'a amené à avoir, mais qui étaient pleins de bienveillance mm-hmm. à la base.
Mm-hmm.
Donc, je dirais de mon père que c'est une victime collatérale. Assez proche.
Assez
là,
proche aussi.
De tout ça.
Oui, oui. Puis, ta mère, comment qu'elle a vécu ça? Parce que ça a dû la ramener à sa propre agression. Comment elle a quand même pu, en tant que mère, t'accompagner dans cette problématique, ce problème? Elle a dû prendre en elle des ressources quand même assez fortes pour pouvoir être avec toi à ce moment-là.
Mais tout à fait. Il a fallu que je sois entourée d'autres personnes aussi pour m'aider, parce
Oui.
que ma famille, ayant été impliquée une première fois de façon assez directe, avait besoin d'aide, elle aussi. Tout le monde avait besoin d'aide chez nous. Donc, ma mère, forcément, elle a été habitée par une rage incommensurable.
Oui, ça c'est sûr.
Donc, c'est assez propre à des événements comme ceux-là. Puis même, je dirais, de ma mère autant que de mon père, un manque de sens profond.
Mm-hmm.
Pourquoi on fait ça à ma fille? Pourquoi on nous a fait ça d'abord? Je pense que ma mère est très habitée par une amertume considérable envers l'humanité
Ouais.
et envers les hommes d'une certaine façon, les hommes violents. En tout cas,
mm-hmm.
on va les préciser. Donc, je pense pas que ça a amélioré le sort de l'humanité dans l'esprit de ma mère, tout
Mm-hmm.
ça, là.
Mm-hmm.
Ouais. Puis en même temps, l'agresseur de ma mère avait pas été traduit en justice non plus.
Okay.
Donc le système a été défaillant deux fois sur deux. Et j'ai l'impression que ma mère, par ma démarche actuelle d'écriture, trouve un exutoire elle aussi par procuration
Oui.
dans
Oui.
tout ça. Tu sais, il y a une voix que je lui offre. D'ailleurs, elle est extrêmement courageuse de me permettre de raconter son histoire.
Son histoire aussi.
Comme tous les membres de ma famille, d'ailleurs.
Mm-hmm.
Mais c'est ça, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose aussi qui est gratifiant pour elle, qui est réparateur dans tout ça. Tu sais, la semaine dernière, j'étais en conférence à l'Apocatière, qui est le milieu dans lequel j'ai grandi.
Oui.
Et ma famille était là, dont ma mère, qui était particulièrement touchée, mais aussi, je pense, directement interpellée par mes propos, là.
Mm-hmm. On parle de justice dans les deux cas. L'agresseur, jusqu'au moment où on se parle, n'a pas été... juger. Quel regard tu portes sur cette justice-là? On sait aussi, n'oublie pas qu'il y a eu tout le mouvement MeToo où les femmes se sont positionnées à dénoncer, puis cette justice qui n'est pas réparatrice non plus.
Quand je commence ma conférence, d'emblée, je demande aux gens, je les questionne. Pour eux, c'est quoi la réparation
mm-hmm.
et c'est quoi la justice? Et j'amène l'idée que le système de justice, c'est une voie parmi d'autres, qui est partielle et incomplète au sens où c'est une voix qui est très peu personnelle, même très désubjectivée.
Mm-hmm.
Donc, c'est pas elle qui va affectivement apporter un baume au vécu de la victime. Ça prend autre chose. Ça prend quelque chose qui, je crois, est plus personnel et se passe par les liens autour de nous. Donc, pour moi, ce propos-là, j'aime le tenir face à des victimes qui, comme moi, n'ont pas eu l'occasion de pointer quelqu'un du doigt.
Oui.
Parce qu'elles le peuvent pas ou parce que, bon, pour toutes sortes de raisons, parce que ça peut être très dommageable de le faire. On a quand même un pouvoir sur notre vie, puis il y a quand même des choses qu'on peut faire. Et pour moi, ça a passé par l'écriture, notamment, par la publication.
Mm-hmm.
Donc, la justice, ça passe à travers mes liens qui
Oui.
m'aident à me relever. Que ce soit David Goudreau, qui a
Mm-hmm.
joué un rôle vraiment important dans la publication de mon recueil,
Oui.
qui même avant m'aidait dans l'écriture de mon récit qui, lui, n'a pas pu être publié justement pour des raisons judiciaires.
Oui.
Que ce soit la maison d'édition qui a été très épaulante mm-hmm. dans le travail du recueil. Donc, tout ça est nécessaire. J'ai été hébergée par des gens très aimants qui sont devenus une famille de cœur pour mm-hmm. moi aussi après ces événements-là. Il y a quelque chose qui doit passer par là, ouais. parce qu'il fait du bien.
Mm-hmm. Tu as parlé aussi d'humanité, la façon aussi que tu as été traitée suite à l'agression au service de police et aussi par les médecins. On parle d'humanité, je veux dire, est-ce que c'est encore comme ça? Est-ce que les soins sont aussi remplis d'humanité pour tout le monde?
Je pense pas. Je pense que pour moi, ce qui a été une différence significative, puis je dis pas que ça l'est pas pour d'autres personnes, mais partons du fait que d'emblée, j'avais des blessures
ouais.
qui témoignaient de la véracité de ce que je venais de vivre.
Mm-hmm.
Donc, c'était très sérieux et c'était pris au sérieux automatiquement.
Ouais.
Ce qui n'est pas toujours le cas chez des victimes de violences sexuelles ou psychologiques.
En effet, oui.
Donc, je pense que ça... Puis même, ça a occasionné des traumas chez beaucoup de professionnels de la santé qui ont dû recevoir du soutien. Imaginez chez les préposés, les infirmières mm-hmm. Qui m'ont soignée, comment elles se disaient « Hey, c'est arrivé à elle, ça peut m'arriver à moi. »
Bien sûr.
Hein, oui. Moi aussi, je suis une personne, je suis n'importe qui comme elle.
Oui.
Donc, ça a été terrassant pour mes collègues de travail aussi.
Mm-hmm.
Donc, d'emblée, il y a eu ça. Et ça a été l'approche du service de police, ça a été l'approche du corps médical. C'est sûr qu'il y a des améliorations, tu sais, d'emblée. Oui. Moi, je suis arrivée nue à l'hôpital. On m'a pas apporté de petites culottes avant que je le demande de façon insistante.
Oui.
C'est une recommandation que je peux faire.
Tu sais. Mm-hmm.
C'est important de retrouver son intimité.
Mm-hmm.
Une forme de corolle, une forme de carapace.
Oui.
J'ai besoin de bobettes, là. Tu sais.
Exactement, oui, oui.
Mais en même temps, l'humanité n'est pas parfaite, tu sais. Puis c'est une situation qui sort de l'ordinaire. Donc c'est normal qu'il y ait certaines choses qui doivent être corrigées aussi dans la réponse, là.
Restez avec nous, nous allons nous arrêter pour une petite pause.
Vous écoutez Vivement les femmes avec Marjorie Théodore.
Je suis toujours en compagnie de Geneviève Rioux, doctorante en psychologie et autrice. Geneviève, tu as titré ton recueil sur Vivace au pluriel. Je lis cet extrait à la page 21. On se défend de se fendre, violée de mère en fille, survivace de fille en mère. Donc, le mot survivace, moi, je l'ai bien compris. J'aimerais savoir quel est le sens de ce mot pour toi.
Mais pour moi, survivace, ça vient du mot survie et oui. de vivace. Hein.
Mm-hmm.
Les vivaces sont des plantes qu'on pourrait croire mortes, mais qui reviennent au printemps et qui fleurissent.
Oui.
C'est des annuels. Donc, il y avait une analogie très forte à faire avec cette plante-là, notamment du fait que mon agression est survenue en avril.
Mm-hmm.
J'ai retrouvé un second souffle juste après.
Oui.
La vivace, pour moi, c'est aussi toutes les survivantes au sens large.
Oui.
Là, vous avez parlé de ma mère dans l'extrait, mais il n'y a pas juste ma mère. Pour moi, il y a ce grand nous, là, toutes ces femmes-là.
Toutes ces femmes, oui.
Parce que la violence, en fait, à travers le monde, est universelle, ça, cette violence-là, le viol... Le meurtre, tout le monde à travers le monde a peur de mourir ouais. ou a peur de se faire agresser.
Mm-hmm.
Donc, oui, mon histoire est particulière, mais je voulais interpeller tous ces gens-là.
Ouais.
À la page 21, c'est très intime, ça parle de la reproduction de la violence entre ma mère et moi.
Mm-hmm.
Plus loin dans le recueil, on entend, c'est ça, ce nous-là familial, et encore plus loin, ce nous-là collectif. Donc,
ouais.
c'est un jeu qui se transforme, mais qui finalement n'est jamais vraiment seul
mm-hmm.
Dans tout ce qu'il traverse.
Mm-hmm. On va poursuivre avec Survivace, qui est quand même écrit en style poème et publié aux éditions Mémoire d'Encrier. Donc, cet élan vers l'écriture qui a été salvateur, est-ce que pour toi, c'est une action que tu recommanderais pour justement passer à travers sa guérison, sa propre guérison?
Oui, puis pour le soutenir, je vais expliquer un petit peu comment ça m'a amenée à la poésie,
oui.
Mon expérience. En fait, tantôt, je disais que l'enquête a été de longue haleine. Donc, pendant très longtemps, il y a beaucoup de choses que j'avais pas le droit d'exprimer, pas même à mes proches.
Mm-hmm.
Et j'ai toujours été quelqu'un qui tenait un journal intime depuis que j'étais toute jeune.
Okay.
Donc, l'écriture, ça me venait naturellement pour exprimer beaucoup de choses. Je me suis mise à écrire, donc, qu'est-ce que j'étais en train de vivre à ce moment-là, dans l'idée que plus tard, mes proches y auraient accès puis pourraient mieux comprendre mm-hmm. mon expérience.
Mm-hmm.
Donc, je me suis mise à faire un peu le récit de ce que j'étais en train de vivre. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai rencontré David Goudreau au Salon du livre.
Oui.
David m'a aidée, notamment, dans l'édition de ce récit-là, qui, finalement, n'a pas trouvé de voie de publication parce qu'il y avait trop d'enjeux juridiques qui étaient soulevés là, dans l'écriture. Face à ça, David a proposé que je me mette à la poésie plutôt.
Okay.
Parce qu'il y avait moins de chances que ça puisse nuire à un témoignage éventuel. C'est plus métaphorique, mm-hmm. il y a plus d'images, de figures de style employées.
Mm-hmm.
Donc, je me suis lancée, puis j'en avais écrit dans ma vie de la poésie. Là. C'était pas la première fois que je m'y mettais, mais c'était la première fois que je me prenais au sérieux
oui.
à faire ça.
Oui.
Et finalement, ça m'est apparu une voie vraiment intéressante. Parce que c'est puissant, la poésie. Il y a des façons de transmettre, je pense, des messages assez importants, au sens où, bon, c'est une poésie qui est plutôt frontale.
Mm-hmm.
Moi, je voulais que mon oncle, qui est à chasse, qui fume sa cigarette en attendant son boc, puis qui a un petit 5 minutes de lousse, puisse sortir Survivace de sa poche, puis comprendre quelque chose, puis en
oui.
tirer un sens.
Oui.
C'est un message que je veux porter, donc... Oui, il y en a de la très belle, là, poésie qui est hermétique, mais ce n'était mm-hmm. pas mon objectif personnel
mm-hmm.
d'être là-dedans. Et étant donné qu'il y a une forme d'histoire à raconter, ben la forme que prend le récit est une forme narrative.
Oui.
Il y a un fil là, qui tend du début à la fin, mm-hmm. qui garde en tension du début à la fin.
Mm-hmm.
Donc, la première partie parle de ma propre agression.
Oui.
Je raconte les faits d'une façon très poétique. Ensuite, je reprends les mêmes vers et je raconte l'agression de ma mère. Donc, rapidement, le lecteur est amené à observer que ça se peut pas, là, que ce soit le hasard qui amène une similarité des scénarios aussi frappantes.
Mm-hmm.
Et finalement, la troisième partie, c'est là où on voit plus la lumière apparaître, là, où mm-hmm. je parle de ma réparation à mm-hmm. travers notamment des relations, une relation amoureuse importante, retrouver son intimité, son rapport à son corps qui est transformé, qui est plus mm-hmm. dans la blessure, mais dans la caresse.
Oui.
Donc voilà, là, qu'est-ce qui m'a amenée à avoir l'écriture comme exutoire. Puis oui, je le recommanderais justement
mm-hmm.
aux femmes parce que c'est une façon de transmettre. Pour moi, ça devenait quasiment comme une gastro. Hein. Faut que ça sorte à un moment donné.
Oui, 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 oui.
Donc ça pouvait exister, mais à l'extérieur de moi.
Mm-hmm.
Je pouvais revenir, me relire, mm-hmm. toucher à mon histoire, la remettre plus loin. Il y a un rapport qui... C'est un peu comme un objet transitionnel
mm-hmm.
avec lequel on peut... approcher sa propre histoire puis,
ouais.
puis nourrir une perspective aussi différente des fois. Ça aide à sortir de la cristallisation puis de l'impuissance.
Tout à fait.
En donnant des sens.
Combien de temps que ça t'a pris pour rédiger ton livre?
Le recueil Survivace, ça s'est fait sur une année, mais il y avait aussi la suite poétique publiée dans le Sabor avant qui reprend des vers de Survivace.
Mm-hmm.
Mais il faut dire que c'était mijoté déjà à travers le récit.
Oui.
Il y avait quelque chose, il y avait une forme préexistante qui permettait d'en arriver à ça,
mm-hmm.
à ces vers-là.
Mm-hmm. Puis ça a été, est-ce que ça a été le premier jet? Est-ce que,
non, il y a eu plusieurs travaux en fait,
oui,
du recueil. D'abord, un travail personnel, ensuite
oui.
avec David, il y a eu un vrai travail d'édition,
mm-hmm.
avant de le présenter à Mémoire d'Encrier, un autre travail d'édition avec Mémoire d'Encrier. Donc, il y a eu aussi comme un build-up, des regards portés aussi sur l'histoire, qui
oui.
est partie de l'intime à quelque chose de beaucoup plus généralisé autour de moi.
Mm-hmm.
Moi, mes proches, ma famille, parce qu'évidemment, tout au long de mon écriture, je m'assurais que mes proches étaient d'accord avec mm-hmm. ce que je racontais d'eux. Et c'est ça, finalement, après le regard de ma maison d'édition, ben, il y a eu le regard du grand public.
Du grand public, oui.
Ouais.
On parle de similitudes hein, entre les deux agressions. Quelle est ta lecture de ce fait-là?
Ben, plusieurs choses. Peut-être je reviendrai juste sur la question de l'écriture. Tu sais, oui, je recommande la poésie, mais ce qui est important d'entendre, c'est l'importance de l'exutoire.
Oui.
Hein, au-delà de l'écriture, si les gens sont pas à l'aise avec les mots, il peut y avoir la danse, il peut y avoir la peinture, toutes sortes de formes d'expression, en fait. Il faut que ces émotions-là trouvent une façon de s'extérioriser. C'est vraiment ça le principal.
Donc, un choix de créativité, ouais. De là où on le veut.
Oui, pour moi, ce qui fait sens avec l'écriture, c'est que ça me suivait, comme je disais, depuis l'enfance, avec des journaux personnels, dont un, d'ailleurs, qui s'est retrouvé à être une pièce à conviction pendant un an, qui m'a même plus appartenu. Donc, il faut bien se connaître, puis il faut se fier à soi pour trouver sa propre façon de s'exprimer.
Oui, oui, tout à fait.
Et pour revenir à la question sur la similarité des scénarios, mais ce que je me permets d'avancer, c'est que cette personne-là, forcément, devait connaître mon histoire pour la répéter.
Pour la répéter, oui. Geneviève, on poursuit. À la page 73 de ton livre sur Vivace, tu dis, et je lis, « Quelqu'un sait, quelque part, quelque chose, et permet ton délire complice. » Comment vit-on avec la certitude que quelqu'un sait et ne parle pas?
Ben, moi, j'ai toujours dit, à partir du moment où l'enquête a commencé, qu'il y avait au moins une personne sur la Terre qui connaissait la vérité.
Mm-hmm.
C'est au moins celle qui l'a commise, ce geste-là. Et je peux imaginer qu'il y a des bribes d'informations qui appartiennent à des gens qui peut-être se doutent pas que c'est des informations importantes, qui apparaissent banales, que ce soit dans des réactions post-délictuelles de la personne ou en amont même.
Mm-hmm.
Mais qui, finalement, sont pas du tout négligeables. Donc, je pense pas que les gens sont nécessairement dans une... Peut-être que oui.
Mm-hmm.
Dans une perception qui détiennent un savoir qui pourrait tout changer, mais ça peut être le cas.
Oui.
Et c'est complexe. C'est complexe s'imaginer que c'est quelqu'un qu'on connaît. Parce que ça bouscule complètement notre vision du monde. On a confiance en les gens. Donc, si on admet que cette personne-là a fait ça, ben on admet que ce qu'on croit de l'humanité depuis notre naissance est faux.
Oui.
Il faut revoir ce monde-là perceptuel.
Mm-hmm.
C'est courageux.
Oui, tout à fait.
C'est pas tout le monde qui est prêt à faire ça.
Non. Et c'est d'admettre aussi que finalement, on est en sécurité nulle part.
Partout et nulle part.
Oui.
Parce que quand j'ai combattu de mon côté la peur familiale qui suivait l'agression de ma mère et que finalement mon agression est arrivée, j'ai été agressée dans un logement qui était un quartier résidentiel banal, à 3 minutes exactement en voiture du service de police de Sherbrooke, pour ajouter à la dérision du truc. Mais auparavant, j'ai habité dans le pire ghetto de Sherbrooke, coin Alexandre, pour montrer à mes parents que je voulais repousser les limites de ces peurs-là. C'est pas dans ce logement-là que j'ai été agressée. Donc, on peut se mettre à avoir peur de tout, mais on peut se dire aussi qu'il faut faire confiance, puis que là, à un moment donné, ça arrivera pas 3 fois non plus. Là, 2, je pense que c'est suffisant. Là.
Oui, tout à fait. Puis maintenant, comment vous vivez? Vous vivez au jour d'aujourd'hui? Est-ce que toutes ces peurs sont... comme je dis, sont tes peurs, tu vis avec, ça va toujours se poursuivre ou...
Les peurs notamment, mais il y a autre chose, il y a les cicatrices qu'on voit pas nécessairement. J'ai été chanceuse, j'ai eu un bon plasticien.
Tout à fait.
Mais moi, je les vois, ces cicatrices-là, je les vois tous les jours.
Oui.
Je les sens aussi, il y a des blessures qui sont restées de ça.
Mm-hmm.
Des blessures physiques, et pas juste psychologiques.
Psychologiques, exactement.
Pas juste dans la peur.
Oui.
J'ai à vivre avec ma famille dans un autre rapport.
Oui.
J'ai à vivre avec mon amoureux dans un autre rapport.
Mm-hmm.
Ça transforme tout. Dans un contexte professionnel, il y a quelqu'un qui m'a dit être choyé d'être seul dans un bureau avec moi parce que il était un homme.
Ah oui.
Et ça a aidé à la relation de confiance. Oui. Donc ça, c'est fort.
Mm-hmm.
Ça fait partie des trucs positifs que j'observe de ça.
Oui.
Donc oui, je reste avec des séquelles, mais aussi des tournures à ça.
Mm-hmm.
Cette personne-là m'a montré que j'étais capable de tout ce courage-là. Cette personne-là m'a amené à écrire un livre. J'aurais jamais cru réaliser ce rêve-là d'être écrivaine, finalement.
Oui.
Au bout de...
Oui, finalement. Oui. Ça a été, en tout cas, de te découvrir comme écrivaine.
Oui.
On parlait de cicatrices, et puis je vais t'amener à la page 52 de Survivace. Porter en témoignage la chair couverte et nue, j'exhibe immuable mon identité de force. Plus jamais et plus jamais la même. À 40 degrés, le soleil au zénith, mes coutures tapent à l'œil. Juste envie d'enfiler un tricot, un cache-cou, une tuque, ta cagoule. On a parlé d'être avec un amoureux, mais je vais encore plus loin. Comment tu réponds maintenant, après quelques années, aux nombreuses questions justement sur ces cicatrices visibles?
Oui, ben c'est un bon poème, ça. Parce qu'il y a deux poèmes dans le recueil qui font référence aux cicatrices, à l'apparence. Mm-hmm. Il y en a un qui est le regard extérieur, la curiosité des gens, puis celui-là, c'est mon propre regard sur moi-même, comment je me vois au quotidien, mm-hmm. puis ces espèces de cotons ouatés-là que même l'été, j'avais envie d'enfiler, probablement en partie pour les cacher. Et là, finalement, ta question est un petit peu un pont entre les deux poèmes. Comment tu réponds, Jean? Moi, d'emblée, je voulais pas qu'il y ait de tabou. Donc, j'avais tendance à répondre de façon assez sèche.
Mm-hmm.
Puis souvent, c'est étonnant, mais c'est des personnes de la santé qui se permettaient de poser le plus de questions.
OK.
Contrairement à ce qu'on pourrait s'imaginer.
Oui.
C'est eux qui avaient le moins de discrétion.
Okay.
Par exemple, quand je suis allée faire enlever mes points de suture, il y a une infirmière qui me dit « Oh mon Dieu, t'as-tu pris une fouille en vélo? »
Ah, oh, OK.
Puis c'est d'ailleurs, je l'ai d'ailleurs cité dans un poème.
Oui, tout à fait, c'est dans un poème, oui.
Mais à ça, je répondais sèchement « Non, tentative de meurtre. »
Ouf. Point. Ouais.
Ouais. Et je le faisais pas comme de façon méchante, mais c'était juste, voilà les... T'as osé poser la question, voici
ben
la réponse.
Voilà, ouais.
Et je voulais pas que ça m'appartienne à moi, le malaise.
Oui.
De répondre à ça. C'est pour victime de le porter.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Donc, je me permets encore, là, j'ai un peu plus de doigté avec du recul, là, pour la porter, mais je me permets encore de pas porter ce malaise-là.
Ouais. Le poète David Goudreau a dit de toi que tu étais une guerrière pédagogue. Puis, est-ce que tu aimes cette façon de te décrire? Tu te vois comme ça?
Oui, c'est joli comme formulation.
Oui, oui, tout à fait.
J'apprécie le côté pédagogique parce que je suis dedans en ce moment. C'est, si je suis aussi ici aujourd'hui avec toi, Marjorie, c'est parce que je veux passer un message. J'espère qu'il y a des victimes ou des proches de victimes. De victimes qui vont entendre ça,
mm-hmm.
qu'il y a des façons de... On choisit pas ce qu'on vit, mais on peut changer de perspective avec le temps.
Ouais.
On peut voir de la lumière dans une réalité complexe, là où on avait tendance à voir que de la noirceur, mm-hmm. entre autres. Fait que je suis là-dedans. La semaine dernière, j'étais en conférence, j'ai commencé à donner des ateliers d'écriture, puis ça vient donner beaucoup de sens à mon désir, justement, de pouvoir faire quelque chose de cette expérience-là, puis d'apporter au monde, puis de pouvoir le faire aussi pour les victimes qui n'ont pas survécu au féminicide. Ça, c'est important également. Et j'ai même l'impression, je suis surprise d'observer, que ça contribue probablement encore à ma réparation.
Oui.
Puis peut-être qu'il y aura un tome 2 avec un bout d'entrevue avec Marjorie dedans, tu sais, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui m'apporte plus personnellement que je pensais dans ce mouvement-là, que je voyais plus dans une espèce de dons, de partage.
Oui, oui. Alors maintenant, Geneviève, j'aimerais ça que tu nous lises quelques passages de ton livre sur Vivace.
Certainement, ça va me faire plaisir. Silence interminable. Ma carcasse en geyser. Je n'ai plus de pouls radial. Police. Enfin, tout peut commencer. L'enquête. La thérapie, la haine, la rage, l'impuissance des autres. faire le compte. Des blessures, des blessés, les dommages collatéraux se chiffrent en chacune. Sœur, tante, cousine, amie, collègue, universitaire, répartitrice, policière, enquêtrice, préposée résidente, infirmière, coiffeuse, intervenante, psychologue, docteur, physiothérapeute, dentiste, esthéticienne, massothérapeute, propriétaire, locataire, voisine. Tu les as toutes écorchées. L'effroi porte le même visage. Maman. Vagues sismiques. Des profondeurs du foyer, ce qui nous guette récidive, ravagé par la méfiance. Ma sœur, à peine épargnée. Comment revivre dans la peau de celle qu'on n'a pas violée? J'aurais pu ne pas rentrer seule, suivre mon intuition, t'arracher la gueule, la cagoule ou les gants, te laisser faire, te faire la peau. Ce qui est fait est... L'arbre et ses possibles s'inclinent, l'inéluctable. Premier soupir d'une dernière chance. L'absolu s'ouvre à l'avenir. À ça, un sens à défaire. Ta pulsion, la mienne, plus forte encore. Ma mort, ou à peu près, ma mort d'une minute ou dix. Ma mort m'a sauvé la vie. Ce n'est pas un meurtre. Ce n'est pas à cause de toi. C'est grâce à moi. Je t'ai empêché. Il ne faut jamais me prendre la mort pour acquise. Qui meurt au moment de tuer? Je regarde dans mes yeux. Espère te voir disparaître. Elle, je nous vois apparaître. Debout, je deviens un printemps. Je t'enterre et reviens à elle, survivace.
Je poursuis avec Geneviève Rioux, doctorante en psychologie et autrice. Geneviève, il y a quelque chose qui est frappant en toi. Ça fait qu'on a commencé dès le début de l'émission. Et j'ai lu aussi d'autres entrevues que tu as eues. T'es habitée par un sentiment de victoire, mais aussi de cette reconnaissance envers la vie. Que tu nous as même dit lors de ton hospitalisation aussi. Donc, c'est très fort que malgré ces blessures physiques et émotionnelles, que tu as cette reconnaissance à la vie. Puis je pense que, j'aimerais ça t'entendre là-dessus, parce que je pense que les gens ont besoin d'entendre ça, ce sentiment, cette reconnaissance à la vie que parfois on n'a pas pour bien d'autres raisons, mais que toi, avec tout ce que tu as vécu, que tu peux faire, parce que c'est même presque l'hymne à la vie aussi.
Oui, tout à fait. Je comprends ce que tu veux dire. Mais je pense qu'un événement comme ça, quand ça frappe d'un coup, ça amène beaucoup de désillusions.
Mm-hmm.
Ce qui explique que les gens aient de la difficulté à être dans une forme de gratitude ou de reconnaissance. Il y a quelque chose de même contre-intuitif, je pense,
oui.
D'une certaine façon. En même temps, c'est une réaction qu'on peut reconnaître aussi chez des gens qui ont survécu à Auschwitz, tu sais, à l'Holocauste.
Oui.
Il y a une chance inouïe d'être en vie quand on a frôlé d'aussi près la mort. Mm-hmm. Je l'ai vu aussi chez des gens très malades, notamment du cancer, qui reviennent, qui reviennent en santé.
Oui.
J'ai l'impression que quand tu touches à une certaine ligne, à une certaine limite mm-hmm. Du souffle profond de vie, il y a ça qui est une réponse mm-hmm. qui peut émerger puis qui est présente. Puis je parlais de coups tout à l'heure. Évidemment que ça a été un coup frappant dans ma vie.
Mm-hmm.
Mais les formes de désillusion dont je parle, elles ont aussi été présentes dans ma première thérapie qui suivait l'agression de ma mère et qui précédait mon agression.
Oui.
Donc, cette gratification-là s'explique entre autres par ça.
Mm-hmm.
Et c'est comme si, quand je réalisais à quel point j'avais frôlé la mort, je me suis dit, ben c'est tout ce qui compte. Après, c'est du bonus.
Oui.
Puis je suis encore habitée par ça. Dans des observations très banales de la vie, des gestes du quotidien qui sont anodins quand la mort nous habite pas, mais qui deviennent vraiment importants quand la mort est un thème qui a été plus mm-hmm. que présent.
Tu es une guerrière, tu portes le flambeau, tu es inspirante comme femme, à t'entendre, à t'écouter. Lorsqu'on connaît ton histoire, quelles sont les autres femmes qui t'ont inspirée, étant toi-même une femme d'inspiration?
Il y en a vraiment plus qu'on pense, ouais. Des guerrières, vraiment plus.
Ouais.
Des fois, il y a des victimes qui viennent me voir et qui me disent « Hey, je sais pas comment t'as fait pour combattre, moi j'ai pas eu cette force-là, je me suis laissée faire, mm-hmm. j'ai été complètement agressée, violée, l'agresseur a eu le dessus. » Puis moi, je refuse ça. Je refuse de penser que c'est lâche de faire ça.
Mm-hmm.
Au contraire, pour moi, c'est un acte de courage immense. La vie, c'est tellement fort qu'au moment où on avait le pouvoir sur toi et que tu étais agressé,
mm-hmm.
il y a probablement une partie de toi qui s'est réfugiée ailleurs en se dissociant de cet événement-là.
Oui.
Et cette partie-là, il ne pourra jamais la gagner. Mm-hmm. Elle va toujours rester préservée.
Oui, oui, oui.
Il y a une partie de toi qui a été capable de tolérer et de résister, de se préserver du viol.
Mm-hmm.
Donc pour moi, c'est vraiment une question de perspective. Il n'y a pas de honte à s'être préservé, à avoir survécu à une agression ouais. en tolérant l'acte de violence.
Mm-hmm.
Au contraire, c'est très courageux de l'avoir toléré.
Mm-hmm.
Donc pour moi, ces femmes-là sont des guerrières notables,
ouais.
de très grandes guerrières qui se relèvent probablement d'une autre façon parce que ça vient avec d'autres enjeux, ouais. d'autres types d'impuissance à surmonter.
Mm-hmm.
Ma mère, c'est une...
Oui.
Une femme de grande inspiration pour moi, ma sœur en est une,
mm-hmm.
Ma famille de cœur aussi, ma mère oui. de cœur Mylène en est une. Puis là, on parle de femmes, mais je peux pas mettre de côté les hommes.
Mm-hmm.
C'est trop important.
Mm-hmm.
On n'est pas dans une guerre homme-femme là-dedans.
Oui.
On est dans une guerre entre certains hommes
oui.
et les femmes.
Oui, oui en effet. Et avec tout ça, Geneviève, quels sont tes prochains projets? As-tu d'autres projets d'écriture?
Ben là, je suis dans l'écriture d'une nouvelle littéraire avec la maison d'édition La Bagnole pour jeunes adultes.
Okay.
Ça va être un collectif là, d'auteurs. Donc, c'est une courte nouvelle
mm-hmm.
d'à peu près quelques pages qui met en scène le psychologue du cégep de la Pocatière.
Okay.
C'est centré autour d'un meurtre non résolu qui est survenu.
Oui.
Puis se retrouve dans une situation improbable, mais qui pourrait quand même arriver.
Mm-hmm.
Donc, je pense que ça va être intéressant à lire. J'avais d'autres choses à dire.
Roman jeunesse?
Ça va être pour les jeunes adultes.
Les jeunes adultes, ouais, OK.
Voilà.
Oui.
C'est ça, j'avais d'autres choses à dire au sujet des victimes collatérales, au sujet des femmes, parce que mes personnages sont juste des femmes dans cette nouvelle-là,
oui.
qui occupent différents rôles.
Mm-hmm.
Puis sinon, présentement, j'essaie de me concentrer sur la thèse.
De doctorat.
Oui, c'est ça, pour graduer éventuellement.
Oui.
Par contre, là aussi, c'est intéressant parce que je m'intéresse, j'arrête pas de dire que c'est intéressant, mais oui. pour vrai, ça l'est, à l'identité narrative.
Mm-hmm.
En fait, on a tous une personnalité. On a tous des oui. traits. Donc, si je sais que toi, Marjorie, t'es extravertie, je goûte à quelque chose de tes saveurs. Par
oui.
contre, je peux pas vraiment dire qui tu es de façon unique ou précise.
Oui.
Ça prend autre chose. Donc, il y a d'autres niveaux. Mm-hmm. De personnalités plus profondes, notamment nos mécanismes de défense, notre attachement,
mm-hmm.
Des choses qui vont nous contextualiser dans des rôles sociaux et des temps et des lieux.
Oui.
Et finalement, il y a notre identité narrative qui est la façon dont on est perpétuellement en train de se raconter à nous-mêmes et aux autres pour se définir comme personne. Donc, d'accord, les événements à travers le temps vont être appelés à changer, mais il va y avoir des thèmes qui vont transcender et qui vont parler de notre personnalité.
Oh, wow! Très intéressant. Ouais. Merci. Geneviève Rioux, merci vraiment d'avoir accepté notre invitation. Tu es réellement une guerrière pédagogue. Tu nous as touchés, appris et surtout tourné notre regard sur l'après tout en prenant soin des cicatrices du passé. Merci d'avoir partagé ton histoire. Je rappelle que mon invitée est Geneviève Rioux, doctorante en psychologie et autrice. Ceci met fin à notre émission. Merci à toute l'équipe. Mathieu Tessier à la mise en onde, Lynn Roy à la recherche, Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique. Alors ici Marjorie Théodore qui vous invite la semaine prochaine pour une autre femme à découvrir.